Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble. Jacques Nizin à la technique, Pilar Arcas au micro. Aujourd'hui, nous parlerons de science en scène en compagnie de Pasquale et Nardone. Maïté Martinez Argarate est avec nous aussi. Merci à tous les deux d'être là. Alors Maïté Martinez Argarate, je vais vous dire pour une fois encore votre nom au complet. Vous êtes, vous m'en priez, n'est-ce pas? Vous êtes coordinatrice artistique de la cellule pédagogique de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Et Pasquale Nardone, vous enseignez à la faculté des sciences de l'ULB. Vous avez collaboré à Quantum, ce magasin qui n'existe plus, The Magazine of Math and Science. Vous êtes quatrième prix du concours international Gravity Research Foundation en 83 et en 88 pour différentes publications. C'est un concours international. Vous êtes le prix Sépulbe en 1990 pour des travaux de vulgarisation scientifique. Et puis, vous avez reçu le prix Théophile de Donder en 1991 de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique pour des travaux en relativité générale et cosmologie. Donc, on va parler aujourd'hui de Sciences en scène, qui est un concours théâtral et scientifique pas comme les autres, puisqu'il est destiné aux écoles maternelles et primaires de l'enseignement officiel francophone. Il est organisé par le CAL, la Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente et la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, la FAPEO. Et elle fêtera aujourd'hui sa 11e édition. Le concours a pour thème cette année les grandes inventions scientifiques et leur impact sur l'humanité. Et le but, évidemment, vous allez nous en parler, est d'inviter les élèves, les plus petits, les plus grands, les plus petits, donc c'est les maternelles et primaires, à une réflexion, à mener une réflexion éthique sur les nouvelles techniques, car elles ont souvent été créées au départ pour des raisons militaires. Ça, c'est le cahier des charges de cette année. C'est pas comme ça tous les ans, mais cette année, on a mis le focus là-dessus. Mettre une scène est en scène et créer un spectacle de 10 minutes sur un sujet, une découverte ou une problématique bien définie relevant de la science, c'est un très beau projet. Mais c'est aussi l'occasion, Pasquale Nardone, vous qui êtes professeur à l'université, de faire de ce projet un projet interdisciplinaire et de confondre les profs de sciences, de géo, d'histoire avec les profs de sciences.
Oui, c'est-à-dire que là, vous êtes à l'école primaire.
Là, je fais l'école primaire, déjà.
Donc, normalement, il n'y a pas d'enseignant spécifiquement des sciences. Donc, c'est le rôle de l'institutrice, puisqu'en fait, on peut le dire au féminin, puisque plus de 90% des enseignants sont des femmes en enseignement primaire. Elles ont très peu la possibilité de parler de sciences, même si c'est au programme, entre guillemets. Et elles sont devant une population d'enfants qui sont extrêmement curieux et qui posent énormément de questions. Donc c'est un moment idéal, effectivement, de parler des sciences. Mais comment le faire? Parce que généralement, c'est rébarbatif. D'où le lien avec l'aspect théâtral. Donc mettre en scène permet, je dirais, de montrer l'aspect ludique qu'il y a aux choses sur un thème qui change chaque année. Donc cette année, c'est sur les inventions. Montrer que nous vivons dans un monde technologique. Les enfants ne le savent pas parce qu'ils sont entourés d'objets qu'ils utilisent, ils ont tous leurs tablettes quasiment, leur télévision, leur télécommande. Il n'y a plus de préoccupation à comment ça marche en quelque sorte. Et si l'enfant se pose cette question, généralement c'est pas les parents qui vont leur donner, parce que ce sont des objets extrêmement compliqués. D'où le travail intéressant d'aller expliquer les choses, les inventions dans leur cadre scolaire, donc montrer que ça a une importance, et tout ça à travers un aspect ludique, la mise en scène, la pièce de théâtre, le décor, la construction de costumes et l'écriture de textes, bien entendu.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, et ça me fait penser à une première anecdote dont vous vous souvenez peut-être tous les deux, Maïté Pasquale, qui est que une des éditions précédentes a vu naître un projet qui est à l'origine d'un petit incident qui a eu lieu en classe, qui est un enfant qui s'est endormi parce qu'il avait cours de maths et les fractions vraiment étaient trop soporifiques pour lui. Il s'est endormi et ils ont voulu étudier j'imagine ce que c'est que le phénomène du sommeil. Ça pose évidemment la question de comment enseigner les sciences et comment passionner dès les plus petits et les enfants en primaire aux sciences précisément.
Oui, mais là c'est assez facile à faire entre guillemets, c'est-à-dire que les sciences sont toujours des sciences expérimentales, donc tous les objets peuvent parler, c'est-à-dire que nous on dit à juste titre que la démarche scientifique est un dialogue entre les êtres humains et la nature, on pose des questions à la nature et la nature répond. Alors évidemment c'est une situation relativement complexe pour un enseignant, parce qu'à l'école primaire il faut bien reconnaître que lire, écrire et calculer sont des enseignements à caractère dogmatique. 6 fois 7, c'est 42, et l'enfant n'a pas la possibilité de dire que ça fait 43. De même, dans le français, l'orthographe s'écrit d'une façon. Enfin, on écrit les mots d'une certaine façon, et il n'y a pas de discussion possible. Et donc, la démarche scientifique est complètement à l'opposé de cela, parce que vous questionnez un objet, je ne sais pas moi, est-ce que les raisins flottent ou coulent, est-ce que l'élastique s'allonge ou ne s'allonge pas, eh bien, vous ne demandez pas à l'institutrice, vous posez la question à l'objet. Et la seule chose qu'il faut apprendre à l'école primaire, qui est un apprentissage fondamental, c'est c'est ce qu'on appelle la démarche scientifique, à savoir comment est-ce qu'on pose ces questions et quelles sont les règles qu'on va suivre. Donc par exemple, mettre en évidence quels sont les paramètres qui sont pertinents, est-ce que c'est la couleur de l'élastique qui fait qu'il s'allonge plus ou moins, par exemple, et poser ces questions à l'objet, faire un petit tableau, voir, et je dirais accepter aussi le fait du hasard. Par exemple, dans les raisins, bah, il y en a peut-être 50 qui vont couler, ce qui est la propriété classique des raisins, et puis 2-3 qui vont flotter. Bah, ça, c'est la nature. Voilà, il y a les aléas, chose qui n'existe dans aucune autre discipline. C'est pas aléatoire, les autres disciplines. C'est pas de temps en temps que vous mettez 2P, 2L à enveloppe. Enfin, il n'y a pas 2P. Mais, c'est 1P, 2L. Pas de temps en temps, vous n'en mettez pas 3. Donc, il y a cet aspect-là. C'est relativement facile, en plus, dans l'enseignement primaire, parce que les enfants sont en demande, sont curieux, chipotent systématiquement, travaillent avec leurs mains. Et donc, on peut réinsérer le travail manuel, la redécouverte des objets avec les mains. L'institutrice doit simplement changer d'attitude. Elle n'est plus celle qui possède la vérité. Elle est simplement, en quelque sorte, la guide de montagne. C'est-à-dire qu'elle accompagne les enfants dans leur démarche scientifique.
Eh bien, justement, on va profiter de cette opportunité pour écouter l'une de ces institutrices. On revient ensuite en plateau.
Pour moi, en tout cas, c'était de montrer aux enfants que les sciences ne sont pas cloisonnées, justement, dans le domaine des sciences, dans un laboratoire. Il y a moyen de l'exporter sur une scène et de le rallier à la culture et au théâtre.
C'est un projet qui touche beaucoup, qui parle d'un problème scientifique, mais qui est abordé d'une autre manière, puisqu'on sait qu'on va faire un spectacle. Donc c'est une autre approche. Il y a toujours l'aspect scientifique très rigoureux, mais on peut se permettre de mettre de la poésie, une chanson.
Nous, on a trouvé le thème et tout, et c'est Madame Maïté qui a écrit les phrases.
Alors, tout le travail qui a été fait à l'école, c'est un énorme travail au niveau du français, des maths, des sciences, surtout des sciences, ouais. De l'expression orale. Ouais. Donc, toutes les matières qui tournent autour de ce spectacle, ça motive vraiment les enfants à travailler.
Le projet de Science en scène, pour moi, c'est un mélange de tout. Tout en gardant la rigueur scientifique, qu'on puisse enseigner donc quelque chose, une matière scientifique, mais d'une façon ludique.
Voilà, donc on est rentré un petit peu dans le vif du sujet Maïté, et on sait un peu maintenant, un peu mieux de quoi sont faites les différents jalons qui nous permettent de mettre la main à la pâte et de se lancer dans le vif du sujet et de passer de la théorie à la pratique. Alors comment ramener des faits scientifiques issus de la bio, de la chimie, de la physique, de l'aéronautique dans un langage symbolique et accessible? Ça, c'est votre job, n'est-ce pas Maïté?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on va... Comme disait Pasquale, c'est qu'on va partir de manipulation. On va partir de ce que les enfants apportent, de situations qu'ils connaissent, qu'ils vivent à un moment bien précis, c'est quand ils arrivent en classe. Donc, l'exemple que tu donnais tout à l'heure du petit garçon qui dort et ça posait problème et pourquoi, et on va voir toutes les conséquences que ça peut amener. Et comment est-ce qu'on peut résoudre le problème? Voilà, ça c'est des choses qu'on va faire en classe avec les enfants.
Alors Maïté, est-ce que cela veut dire que vous travaillez sur base, entre guillemets, hein, c'est un mot un peu pompeux, mais sur base d'improvisation avec les petits?
Tout à fait. Principalement.
Non, principalement. Je dis ça pour recadrer un peu. Donc en fait, vous, puisque vous êtes éducatrice artistique, vous êtes en fait vraiment à l'origine du processus de création.
Tout à fait.
Donc
oui.
J'imagine que vous êtes en contact directement avec le professeur, qu'il y a un cahier des charges, on va détailler tout ça par la suite, et que vous déclenchez le processus créatif, n'est-ce pas?
Oui, c'est-à-dire que dès qu'on se décide avec l'institutrice de commencer le projet, je vais en classe, on voit avec les enfants des petits thèmes qui pourraient surgir, qui viennent d'eux, parce que je pense que c'est hyper important que les choses viennent des enfants et non pas de l'adulte qui impose quelque chose. Et de là, on va essayer de voir ce que l'enfant connaît d'abord. Quelles sont les choses qu'il connaît, ce qu'il connaît pas, les questions qu'il se pose justement, parce que c'est le côté scientifique, se poser des questions, et voir où est-ce qu'on va trouver toutes les réponses qu'il nous faut pour justement développer le sujet. Et donc là, avec l'institutrice, on va vraiment s'attarder aussi aux compétences qu'on doit développer dans le cadre scolaire. Donc, à tous les niveaux, je dirais, en français, en géographie, l'éveil scientifique, historique, français, grammaire. On va essayer vraiment de faire ce qu'on appelle le schéma en étoile. Et pof, on va partir dans plusieurs matières pour justement développer un maximum le sujet qui a été choisi par les enfants.
Alors justement, pour être tout à fait concret, c'est vrai qu'il y a quelques années, vous aviez mis en scène, mais aussi réalisé les décors, enfin, mis tout ça en musique. Et il s'agissait d'un court spectacle, puisque ce sont des cartes de 10 minutes, qui s'appelait Dardar, qui traitait du comportement des abeilles et de la vie en communauté. Oui. Et donc ça pose vraiment la question de la vulgarisation. Je sais que c'est une de vos spécialités, Pasquale Nardone, parce qu'il y a des choses quand même complexes. J'ai vu un spectacle aussi qui parlait de tous les petits os du tympan ou des vibrations, de ce que c'est. C'est compliqué. Comment on passe de cette théorie compliquée à une...
La première chose, c'est que quand on dit que c'est compliqué, en fait, fondamentalement, ce n'est pas compliqué. Il faut passer par simplement toujours les mêmes étapes, l'observation et la curiosité, ce que vous avez chez tous les enfants, et puis le questionnement, c'est-à-dire vous allez poser à la nature les questions, comme je disais là tout à l'heure. Alors, ce qui est compliqué, c'est par exemple le vocabulaire. Mais les sciences ne se cachent pas derrière le vocabulaire. Vous pouvez dire métatarse, métacarpe. Finalement, on s'en fiche. C'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, par exemple, c'est savoir est-ce que oui ou non les abeilles vivent en société, qui commandent, comment elles communiquent entre elles. Et on peut faire ça. On peut aller voir des apiculteurs. On peut, comme vous l'avez très bien signalé, être terriblement interdisciplinaire. Parce que l'enfant, sans le savoir, va se mettre à écrire, à dessiner, à calculer, sans que ce soit une leçon de calcul. Donc ce n'est pas fondamentalement compliqué. Ce qui est compliqué, c'est, d'une part, probablement le vocabulaire, ça c'est certain, mais aussi la profondeur, c'est-à-dire jusqu'où vous allez aller dans votre démarche.
Oui, c'est ça.
Parce que la science va passer par une étape cruciale qu'on appelle la mesure. Bah, pour mesurer, il faut une latte, il faut une balance, et il faut un chronomètre pour avoir les mètres, le poids et le temps. Bah, ça dépend de la classe primaire. En maternelle, on ne va pas mesurer, par exemple. On va plutôt observer, faire des dessins. Et tout est propice à cela. Les recettes de gâteaux, l'analyse des abeilles, mais aussi les cafards, regarder les petits cailloux. Toutes les approches sont systématiquement identiques. Il n'y a pas de séparation bio, chimie, physique, etc. Puisque toute la démarche scientifique est unique dans toutes les disciplines.
Tout à fait.
Donc, ce qui est difficile, en fait, et c'est vrai que c'est la première crainte que l'institutrice a, c'est de dire, mince, je ne vais pas pouvoir expliquer. Pire que ça, elle a peur parce qu'elle ne va pas pouvoir répondre aux questions « Pourquoi est-ce que ceci ? Pourquoi est-ce que cela ?» Alors que les sciences ne répondent jamais à ce genre de questions. C'est plutôt la démarche. Et donc, il faut apprendre à l'institutrice à changer d'attitude. Mais elle a tout de suite, évidemment, un retour magnifique des enfants parce qu'ils s'amusent comme des petits fous et ils créent des trucs incroyables.
Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce n'est pas vraiment une peur de l'institutrice de ne pas savoir répondre. Parce que je pense qu'une institutrice, elle travaille d'abord une vision globale des choses et puis elle va aller voir toutes les questions que les enfants lui posent. Et donc, elle va faire les recherches. On a fait les recherches en même temps que les enfants. Donc, on n'avait pas peur.
C'est bien, parce que ça, c'est une approche vraiment différente.
Oui.
C'est pas le professeur qui se met...
On a appris en même temps que les enfants. Donc, on a été chercher des documents. Chaque enfant était un peu maître de la situation, puisque lui devait expliquer aux autres ce que lui il avait été recherché, ce qu'il avait compris. Et c'est ensemble que les choses se construisaient. Mais vraiment ensemble.
Oui, en plus, il y a un aspect absolument fondamental dans ce travail que fait Maïté, c'est que on oublie toujours, c'est que la communication permet le renforcement du savoir chez l'enfant.
Exactement.
Donc, puisqu'il n'est pas là avec un savoir débité par les autorités en quelque sorte, il est en recherche de savoir, il va devoir communiquer ce savoir et cette communication renforce chez lui cette connaissance de savoir. Et donc il n'y a pas meilleur enseignement que celui d'essayer d'expliquer aux autres.
C'est ça.
Et donc ça, là, dans l'aspect théâtral, c'est absolument fantastique.
Et c'est ça qui est très intéressant et c'est parce qu'on est obligé quelque part, je pense, pour tout être humain, je pense que c'est valable, c'est de valoriser. Donc à partir du moment où on valorise l'enfant, on lui met dans une situation de maître quelque part et que tout le monde a cette place-là où on se dit voilà, moi j'en sais pas plus que vous les enfants, on va devoir chercher ensemble, on compte sur vous, voilà, au plus de renseignements et d'informations que nous avons sur les abeilles par exemple, au mieux va être notre travail et notre réflexion sur ce thème-là. Je dois dire que l'institutrice fait un très grand rôle. Là, par exemple, c'était Madame Elie Hanan qui travaillait avec moi et avec qui je travaille encore cette année.
À Molenbeek-Saint-Jean,
À Molenbeek-Saint-Jean, oui, toujours à Molenbeek-Saint-Jean. C'est un travail aussi de confiance. Parce que c'est vrai qu'il y a une pression au niveau des institutrices à devoir suivre la matière, les compétences, comme si tout était...
C'est dû dès le départ, n'est-ce
voilà.
pas
Voilà,
oui, exactement. Et alors structuré, ça c'est un aspect malheureusement scolaire, mais l'activité à caractère théâtral est quelque chose de génial à faire dans les classes, évidemment, parce que les institutrices ont ce temps miraculeux que l'on n'aura plus jamais dans l'enseignement secondaire, où tout est découpé en petites tranchettes de 50 minutes, tandis que l'institut, elle a son groupe classe pendant une semaine entière. Bon, il y a un peu de cours de gym et tout ça, ok, mais au moins elle peut comprendre la respiration de sa classe, dire on va faire maintenant,
tout à fait.
Maintenant vous êtes fatigué, ok, tout le monde récré, chacun prend sa pomme et sa gaufre, etc.
Oui, elle sent
et
son groupe.
Sent son groupe. Et ça, c'est un lieu absolument magique de travail. Après, c'est plus comme ça, malheureusement, dans l'enseignement secondaire.
Mais c'est déjà un petit peu comme ça, je dirais, déjà en primaire, hein, malheureusement.
On amorce déjà un petit peu de mouvement.
Ici, l'avantage, c'est que la commune de Molenbeek-Saint-Jean m'a engagé pour donner 2 heures d'expression orale en remplacement de cours de français.
Donc,
ça fait partie intégrante des cours.
On va parler un peu dans un moment comment aider justement les professeurs et comment redéfinir ensemble toutes les possibilités, toutes les facilités qui sont mises à disposition des enseignants pour justement les inviter à participer. Ils sont nombreux à participer, mais on aimerait qu'ils le soient encore davantage. Je vous propose d'écouter ce son qui nous plonge dans l'ambiance générale de ce concours Sciences en scène. On écoute.
On est parti d'un fait qui s'est réellement produit en classe, puisqu'on a un élève, Arnaud, qui s'est endormi en classe en pleine leçon sur les fractions. C'est de là qu'est démarré tout le travail d'écriture et de création du spectacle.
Déforestation, marée noire, maladie, disparition d'espèces.
Cette fois-ci, le thème a été choisi par les enfants de nouveau et ils ont choisi les faits de serre. Donc, à nouveau, rebelote au mois de septembre, les livres sont arrivés par bien une petite cinquantaine de tous niveaux pour que chaque enfant puisse s'y retrouver. Et donc, le travail de recherche et de compréhension du thème a été commencé.
Si, alors quoi ? Si ce n'est pas le soleil qui est responsable, alors qui ? Qui ?
On n'a pas juste fait la pièce, on a aussi travaillé, on a fait des expériences scientifiques, toute une année, on travaille sur l'effet de serre.
Alors Maïté, on parlait tout à l'heure du plaisir d'être en scène et de ce projet théâtral, de cette initiative théâtrale qui sort évidemment totalement du cadre scolaire, puisqu'ici l'enfant va s'exprimer avec son corps, il va prendre la parole en public, il y a des décors, il y a, et ça j'y étais très sensible, il y a une recherche aussi sur la bande-son qui est tout à fait intéressante, il y a des lumières. Les élèves, les classes sélectionnées ont le loisir de concourir dans des salles qui sont vraiment prestigieuses. Donc là, on en parlera tout à l'heure, mais on sera au Théâtre de Liège, qui est une salle absolument superbe. C'est pas rien quand même pour les tout-petits et même pour les parents. Et même pour les plus grands, veux-je dire. Et puis, précisément, je pensais aux parents parce que, comme il s'agit de projets totalement multiculturels, je ne suis pas certaine que beaucoup de ces parents soient si habitués que ça, finalement, et si familiarisés avec les sorties théâtrales.
Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est aussi un challenge qu'on se donne, c'est de faire participer un maximum les parents. Donc, on organise, en dehors du temps scolaire, des réunions pour les sensibiliser, pour vraiment qu'ils soient présents aussi lors des représentations, qui soit acteur quelque part, parce que là ce sont par exemple des petits, pour l'étude du texte, pour qu'il y ait vraiment un sérieux, pour qu'on se rende compte que l'apprentissage là au niveau théâtral et au niveau scientifique, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça entraîne, et je pense que c'est vraiment, ça fait effet boule de neige, ça entraîne un apprentissage, un vouloir à travailler, on les met dans une condition, et apprendre en plus en s'amusant et en étant en groupe.
En étant ensemble,
il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, voilà. Et on se divise le travail. Et donc, les parents, on les fait participer de cette façon-là aussi.
Alors, ce qui est intéressant aussi, dans la façon dont vous travaillez, c'est que vous mettez la main à tout. Donc, par exemple, là, pour vous avoir à l'émission de radio, il a fallu que vous quittiez la peinture de vos décors.
Oui, j'ai laissé ma petite Ananelli toute seule, en train de peindre. c'est 2 jours entiers que déjà nous sommes occupés, et je retournerai jeudi pour finir. Parce que effectivement, pendant les heures de course, impossible. En dehors, il n'y a pas de locaux qui soient suffisamment grands et qu'on peut employer. Donc voilà, c'est toute une organisation qu'on doit avoir.
Absolument. Alors, Pasquale Nardone, vous nous parliez tout à l'heure d'activité théâtrale, mais si je comprends bien, dans le cahier des charges de ce concours, le spectacle peut être aussi du mime, de la danse.
Oui.
Bon, j'imagine que 90% des spectacles sont théâtraux, n'est-ce pas?
Oui, mais l'expression théâtrale est évidemment très large. Et donc, quand vous avez des petits, par exemple, de maternelle, vous n'avez pas évidemment l'utilisation d'un discours. Il y aura plus l'utilisation de l'expression corporelle, par exemple. Ou bien à travers les dessins, à travers les décors, puisque les objets sont représentés. Lorsqu'ils se déguisent en abeille, ils se déguisent en abeille. Je me souviens des spectacles avec des dents. Eh bien, il y a toute une bouche qui est là.
Oui.
Sur l'estomac, même chose. Sur l'oreille aussi. Donc, il y a des tas de formes d'expression et c'est ça qui était extrêmement riche. Il y avait en plus, je me souviens, une classe de primo-arrivants. Donc aucun de ces enfants ne parlait français et à la fin du spectacle, ils parlaient excellemment français.
Oui, enfin,
et de façon indirecte.
À la fin des répétitions, vous voulez dire.
C'était sur la tectonique des plaques en plus.
Oui, mais c'était intéressant.
C'était sur la tectonique des plaques et c'est vrai que j'avais une majorité d'enfants qui venaient d'arriver, ne parlaient pas le français et c'était extraordinaire.
Mais, et c'est ça que je trouve toujours très intéressant, c'est de montrer que l'enseignement passe par toute une série d'activités et que l'école, certes, est le symbole de l'enseignement, mais qu'il n'y a pas que l'enseignement ex cathedra, il n'y a pas que l'enseignement frontal. Toute forme d'activité est un apprentissage non seulement multiculturel, puisque dans les classes à Molenbeek c'est comme ça, mais aussi multigénérationnel, puisque les parents participent, les grands-parents participent, et aussi multi-orientation. C'est le prof qui a un autre rôle, avec des enfants qui ont encore d'autres rôles. Et donc tout ça, c'est un mélange qui conduit tous ces enfants à apprendre quelque chose par eux-mêmes, par le dialogue, etc. Et donc, effectivement, toutes les formes d'expression sont possibles.
Pour revenir à des choses un tout petit peu plus sérieuses, tout ceci est très sérieux, je voulais revenir sur un point de détail. Je sais que certains professeurs sont parfois intimidés par l'ampleur du projet. Ils n'ont pas tous la chance d'avoir une maïté, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire une coordinatrice artistique qui va prendre le groupe en charge pour toute la partie vraiment artistique. Or, dans les communes, il y a moyen de trouver ou un comédien professionnel, parce que le concours met à disposition l'acteur, le comédien professionnel, le prof de théâtre, l'académie ou que sais-je, et toute une série de facilités sont mises à disposition des professeurs, comme un soutien à l'encadrement des élèves, et puis des défraiements pour les décors, pour les transports, prise en charge le jour de la représentation. Mais je voulais en revenir aux décors. Il y a des décors, enfin franchement, des costumes et des décors qui ont l'air professionnels. Comment faites-vous? Vous n'êtes pas évidemment responsable de tout toutes les classes, mais ce que j'ai vu est vraiment remarquable.
Moi, malheureusement, je fais tout toute seule. Donc voilà, à force de faire, on apprend aussi, hein, parce que je déteste la couture. Mais voilà, donc là, je suis en train de faire mes costumes. Mais je sais aussi que des écoles demandent aux mamans, justement, de participer. Il y a des écoles qui demandent à la COCOF une aide au niveau des comédiens professionnels ou des animateurs, ou à la FBI, à la Fédération d'improvisation belge, une aide, parce que ça existe. Il y a des gens qui ne demanderaient que ça. Et je pense qu'il faut se lancer. Il faut vraiment aller chercher là où se trouvent les petites perles qui donneront le petit coup de main, le petit coup de pouce quand ça ne va pas ou quand il faut faire quelque chose. Voilà, ils sont là.
Oui, et en plus, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les écoles primaires font partie d'un système organisationnel. Donc le pouvoir organisateur est typiquement les communes, généralement. Eh bien, ces communes-là ont d'autres rôles du genre. Ils ont une école d'art, peut-être. Et donc, les institutrices peuvent être mises en contact, en fait, avec le monde extérieur, s'apercevoir qu'ils ont là à côté d'elles des artistes en herbe qui ont certes 19-20 ans, qui sont en école d'art et qui ne demandent que ça de participer. Et donc ça, c'est un échange aussi extraordinairement productif. Oui. Et donc, si vous cherchez un musicien, mais il y a plein de musiciens partout, il y a des académies dans toutes les communes quasiment.
Oui, bien sûr.
Il y a des écoles d'art dans toutes les communes, il y a des académies de dessin dans toutes les communes.
Des ateliers de vidéo, voilà. Des ateliers photo.
Oui, ça permet aux institutrices de sortir un peu de leur cadre, mais il faut évidemment que les pouvoirs organisateurs les aident, pas spécialement au niveau financier, mais au niveau informatique.
Aussi,
sûr, au niveau financier,
oui, bien entendu.
Mais aussi au niveau information. Où est-ce que je peux aller chercher de l'aide? Comment? Et ils auront toujours des soutiens. Parce qu'effectivement, généralement, nous vivons dans une société extraordinairement coopérante. Il suffit de demander, souvent, on reçoit.
Oui, absolument. Il faut savoir que ces professeurs peuvent tendre la main, effectivement.
Oui.
Je vous propose d'ailleurs, pour vous donner envie, les professeurs ou les parents qui nous écoutaient, les responsables d'école, on va prendre conscience, dans le petit son qu'on va écouter maintenant, du plaisir qu'éprouvent les enfants à vivre cette expérience du public. On on écoute.
Ah, ils se sont éclatés et puis je crois qu'ils se sont vraiment rendus compte de la chance qu'ils avaient de pouvoir se produire et de pouvoir jouer un spectacle sur une vraie scène avec des vrais éclairages et toute une équipe autour d'eux aussi qui joue vraiment un rôle important. Ouais. C'est fabuleux de pouvoir participer à des journées pareilles. Oui, ils se sont bien amusés, ils étaient vraiment très impressionnés aussi, autant ouais. que nous. Et...
Vous nous avez appelés, nous voici. Ah, le dioxyde de carbone.
CO2 est notre nom de code.
Restons 100 ans dans l'atmosphère et grâce à nos rejets,
sommes responsables de 60% de l'augmentation de l'effet de serre.
On le trouve partout.
Quand ils ont vu le résultat, déjà les costumes, porter les costumes, créer une mise en scène, le décor, et puis de pouvoir le jouer à de modes couvreurs, c'était déjà l'apothéose, puisque pour eux, c'était la première fois qu'ils jouaient devant un public qu'ils ne connaissaient pas.
Pasquale Nardone, vous suivez les éditions de Science en Scène depuis le début, si mes renseignements...
Je me souviens plus.
Depuis un bon bout de temps. Oui. Vous êtes connu pour vos discours flamboyants. Est-ce que vous voyez une évolution dans le choix des sujets, dans les... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en 10 ans?
C'est-à-dire que quand les écoles reviennent, il y a une forme de professionnalisme quasiment qui s'installe.
C'est vrai?
Oui, parce que quand vous faites une fois une expérience, il y a toujours pas des défauts, mais... une technique de travail que vous n'avez pas. Mais quand vous refaites pour la deuxième fois, vous commencez à avoir cette technique de travail. Oui. Vous savez comment gérer, comment faire ce rétro-planning, parce qu'on a quand même une date finale où la présentation doit être là. Donc combien de temps avant je dois faire mes décors, comment je vais structurer la pièce, etc. Donc là, effectivement, il y a des classes qui arrivent vraiment extraordinairement drillées, en quelque sorte. C'est-à-dire l'institutrice, évidemment, puisque la classe change chaque année, c'est d'autres enfants. Mais elle devient une quasi professionnelle du théâtre et de l'expression. Et donc ça, c'est absolument fantastique, bien entendu. Mais les thèmes, eux, sont extraordinairement larges. Hein. Vous allez des nuages jusqu'aux papillons, aux guêpes, à la formation de la Terre, enfin n'importe quoi est possible.
Le danger, je dirais, c'est qu'on en fait une, puis on en fait une deuxième, puis une troisième, et puis on se dit on ne va pas faire moins que la fois passée, donc à chaque fois une surenchère. Non, c'est excellent. Hein.
Oui, je dois avouer, Maïté, que les équipes que vous drillez sont souvent les équipes qui remportent le prix. Hein. Donc vous parlez d'expérience.
Mais tout le monde a un prix en quelque sorte.
Oui, alors ça, c'est intéressant.
Effectivement, le jury s'installe avec, en regardant les pièces, en disant mais il y a des choses qui sont incroyables, qui peuvent être incroyables au niveau, par exemple, du contenu scientifique. On se dit mais c'est pas possible, ils ont 8 ans et ils sont en train de nous faire une déconstruction logico-déductive que j'aimerais bien voir chez mes étudiants 19, quoi. Donc c'est impressionnant. D'autres qui ont un charme inouï dans la poésie de la présentation. Qui donne un flash au cœur, quoi. D'autres où c'est le texte qui est plutôt extraordinairement riche. Donc chaque fois, il y a une richesse spécifique et le jury tombe sous le charme souvent en disant là, c'est plutôt l'originalité, là, c'est plutôt la démarche scientifique. Là, c'est plutôt... Et donc voilà, c'est pas vraiment un concours dans lequel il y a un premier et un deuxième, mais plutôt dans chacune des pièces, qu'est-ce qui est remarquable. Parce qu'évidemment, on ne peut pas comparer des maternelles de 5 ans, par exemple, à des fins de primaire à 11 ans. On a une autre richesse. Mais. Il n'y a rien à faire. Il y a quelque chose d'impressionnant chez chacun d'eux. Et je peux vous assurer que même si j'étais président du jury, les membres du jury, on avait une professionnelle une comédienne qui
Stéphane
Bissot, qu'elle restait aussi tout à fait surprise
de
ce qu'une petite classe comme ça de 15-20 bouts de choux, de maternelle, est capable de faire avec des chiffons, du papier mâché, des boules. Enfin, c'est impressionnant.
Oui, et
c'est
la liberté, qu'ont les enfants pour se mettre sur scène est absolument incroyable par rapport aux adultes qui sont beaucoup plus cadenassés. Mais puisque vous reveniez à ces différents critères, sachez en tout cas, les auditeurs, que pour répondre aux critères d'évaluation, on va juger gentiment la rigueur scientifique, la valeur artistique, la valeur pédagogique et l'émotion suscitée par le spectacle. Cette émotion, j'espère que vous pourrez la ressentir le 28 mars. C'est un samedi, évidemment. Ce sera tôt en journée, je suppose, parce qu'il y a des petits. Donc, ce sera la finale qui aura lieu cette année au Théâtre de Liège. Allez-y en famille. Et sachez que les l'équipe qui va remporter le coup de cœur du jury gagnera une représentation unique à l'Expo Science du mois d'avril, donc en 2015, hein, à Tour et Taxi. Ça, ce sera aussi. Donc, c'est une représentation supplémentaire. Donc, ce sera, je pense, très, très emballant.
Très important.
Oui.
Et très important. Donc, on va dire le mot de Cambronne sans le prononcer ici, parce que c'est pas très poli. Et puis, vous remercier Pasquale Nardone et Maïté Argarate-Martinez d'être venus parmi nous. Et vous, chers auditeurs, merci encore de nous suivre et à la semaine prochaine.